Voilà, vous écoutez Radio Campus 106,6 comme chaque mercredi à partir de 17h30 jusqu'à 18h. Vous avez rendez-vous avec le magazine Lille 1 Info. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de master et notamment d'une journée qui est le 24 mars de cette année où il y aura un forum master à l'Université Lille 1. J'ai le plaisir d'accueillir M. Salah Maouche, qui est vice-président en charge de la formation tout au long de la vie à Lille 1. Bonjour M. Maouche.
Bonjour.
Donc on a l'occasion maintenant de faire un petit peu le point régulièrement sur les études à l'Université Lille 1. Aujourd'hui on va parler master et notamment de cette journée forum qui a lieu de 9h à 18h le 24 mars, donc une journée qui s'adresse à qui ?
Qui s'adresse à tous les étudiants qui ont une licence susceptible de continuer effectivement en master et pour certaines des formations, ceux qui ont déjà une première année de master et qui veulent une spécialité, ce qu'on appelle généralement le M2.
Est-ce qu'on a une idée des étudiants qui sont en licence, quelle proportion à peu près atteint le master ?
On a des étudiants de chez nous, des étrangers, des...
Bon, allez, d'une manière générale.
Entre master et licence, on a beaucoup plus d'étudiants en licence qu'en master. On a à peu près, je dirais, on a autour de 7000 étudiants en licence. On doit être à 5000 à peu près en master.
Qu'est-ce qui fait que les étudiants s'arrêtent et qu'est-ce qui fait que d'autres continuent ?
Je pense que ce qui les fait qu'ils s'arrêtent, je pense qu'il y a d'abord des formations à l'extérieur de l'université qui fait qu'ils s'arrêtent, c'est les BTS, puis après à l'intérieur de l'université il y a les DUT, ce sont les étudiants qui veulent aller travailler le plus rapidement parce qu'ils ont besoin d'aller travailler pour gagner leur vie et que pour cela je les encourage aussi d'autres à en faire parce qu'il faut s'inscrire dans le cadre de la formation tout au long de la vie, ça veut dire quelqu'un peut avoir un premier diplôme, aller travailler et revenir plus tard par une validation des acquis professionnels, pouvoir accéder effectivement à une formation de master.
Donc là, on va dire que cette journée s'adresse à deux types de publics, donc la licence 3 d'une manière générale, et puis aussi aux gens qui souhaitent revenir à l'université par différents procédés, on va dire. Hein. Certains peuvent faire une validation des acquis, donc obtenir une forme de licence 3, une équivalence qui leur permettrait d'entrer en master 2, c'est bien ça ? En master 1, pardon ?
En master 1, tout à fait. C'est-à-dire qu'on fait abstrait. Si quelqu'un a déjà une licence, en réalité, l'entrée dans un master, elle est sélective parce qu'il y a un nombre de places limitées à la deuxième année, ce qu'on appelle le M2, mais quelqu'un qui a une licence dans le domaine, il peut accéder effectivement de droit. Donc ça s'adresse effectivement aux personnes en activité ou en recherche d'emploi, ce qu'on peut qualifier actuellement de la formation continue. Mais ça s'adresse, je dirais, au-delà des étudiants ayant déjà une licence, certains pourraient venir directement dans la L3 pour pouvoir après, étant sur place, effectivement accéder à un master.
Mmh. Les gens qui reprennent la route, le chemin de l'université après avoir une expérience professionnelle sont des gens très motivés en général ?
Très souvent, ils sont plus que motivés parce que faire un cours en formation continue, je pense que c'est très, très intéressant parce qu'on n'a presque pas la peine presque de le structurer parce qu'il y a des demandes qui viennent suite à l'expérience de la personne. En formation initiale, s'ils sont plutôt donc jeunes, ils ne sont pas toujours intéressés par toutes les disciplines réellement. Ils viennent pour un certain nombre de disciplines, mais pas par la totalité. Donc il faut les retenir et les motiver, presque réactiver un peu leurs objectifs le plus souvent. Ce n'est pas le cas de la formation continue.
Est-ce qu'ils suivent les mêmes cours dans les mêmes...
Alors il y a différents. À Lille 1, il y a 18 000, actuellement cette année, 19 000 inscrits en formation initiale. Et on a à peu près 12 000 stagiaires en formation continue. Ça veut dire qu'il y a des étudiants qui sont mélangés avec la formation initiale, 2-3 dans certains masters, voire même en licence ou en DUT. Mais il y a des groupes qui sont spécialement donc organisés pour la formation continue. Et au-delà de ces deux grands groupes, il y a aussi la formation par apprentissage au contrat de professionnalisation. Donc il y a des groupes particuliers aussi en apprentissage.
Est-ce que par moment, ces différentes générations d'étudiants se croisent, éventuellement échangent ensemble, sinon on travaille en binôme ?
Quand il y a un mélange dans certaines formations, ça veut dire, je sais pas, on prend un master quelconque dans lequel il y a peut-être 18 étudiants en formation initiale ou 2-3 de formation continue, ils sont considérés comme des étudiants de formation initiale, sauf qu'ils sont, ils sont d'un certain âge qui est autre que celui des jeunes de formation initiale. Effectivement, ils travaillent souvent ensemble. Sinon, quand ce sont des groupes formation continue, formation initiale, ils se rendent compte parce que quand ils viennent faire informatique ou voir physique ou EEA, pour ne citer que cela, Ils se mélangent dans les bâtiments, ils vont dans les mêmes salles de TP, c'est le même diplôme qui est délivré à issue. Je mettrais peut-être une remarque, il y a aussi des formations qui sont plutôt des certifications, qui s'adressent effectivement à des personnels soit en activité plutôt en activité dans les entreprises et qui viennent pour aller mettre à jour un peu leurs connaissances ou acquérir d'autres connaissances dans le cadre de leur activité. Donc cela, il n'y a pas beaucoup de contact avec la formation initiale parce qu'ils ne restent pas très longtemps chez nous.
En général, ils sont payés, salariés encore dans des entreprises ou bien ils prennent un break complet?
Alors on a différents, il y a les personnes effectivement qui sont en activité qui sont payées. Il y a aussi la formation dans le cadre, je dirais, de la formation continue et payante. Ce ne sont pas des frais d'inscription, mais c'est des coûts de formation. Alors suivant la personne, il y en a, c'est l'entreprise qui paye, il y en a, c'est la région qui paye, suivant c'est quelqu'un qui est en recherche d'emploi. Et sachez qu'il y a aussi une commission d'exonération des coûts, du coût de la formation en fonction du revenu, effectivement, de la famille ou de la personne.
Donc le fait d'accueillir des populations d'âges différents, des tranches d'âge différentes, c'est quelque chose qui est déjà ancien à l'université Lille.
On dit que l'île 1 est une des premières, si ce n'est la première, en formation continue. C'est quelque chose qui est mis en place de longue date, qu'on essaye effectivement de continuer. Mais de la formation continue d'il y a peut-être 20 ans, 25 ans, on est aujourd'hui, on s'inscrit pleinement dans le cadre de la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire de permettre à n'importe qui de revenir à l'université, de valider ce qu'il a acquis dans sa vie professionnelle, voire même personnelle. Soit directement par un diplôme, c'est ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis de l'expérience, soit de lui donner la possibilité d'accéder à un diplôme en lui faisant une VAP. Ça veut dire qu'on l'autorise, mais on lui donne pas un diplôme, on ne lui valide pas un diplôme, il faut qu'il suive des enseignements avec des étudiants de la formation initiale pour qu'il ait le diplôme. Donc l'évolution, c'est de permettre justement à ces gens, mais pas uniquement de venir à plein temps, mais plutôt de venir par partie et de valider des unités ou des modules et par cumulation pouvoir effectivement valider un diplôme entier.
Qu'est-ce qui a changé au fil du temps dans ces formations adressées aux adultes?
Bon, je pense que la chose qui a le plus changé, c'est qu'on parle beaucoup plus de compétences actuellement qu'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus des compétences et on décline les connaissances, alors qu'avant, on délivrait plutôt donc des connaissances qui sont issues de la recherche ou des connaissances déjà donc de nos personnels et que la personne les utilisait suivant ce qu'il peut en faire ou ce qu'il veut en faire, alors qu'actuellement, on décline effectivement toutes les formations. Ils ont des fiches qu'on appelle RNCP qui exposent effectivement leurs compétences et les savoirs que doit avoir chaque diplômé de chaque diplôme.
Actuellement, la perspective de poursuivre l'activité professionnelle au-delà de 60 ans, on en parle de plus en plus, ça se concrétisera, je suppose, un jour. Est-ce que ça a cette conséquence également que les gens aient envie, à un moment donné, de changer d'orientation, sinon de métier, d'entreprise, voire de se former à autre chose?
Vous savez, le cadre de la formation continue, en particulier la FTLV, fait partie de ce qu'on appelle la GEPEC, donc la gestion donc des emplois et des compétences, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça permet à quelqu'un qui a déjà un premier diplôme de pouvoir, dans le cadre soit de l'évolution de carrière, voire de changement directement donc de son métier, de pouvoir revenir à l'université pour se former. Donc c'est vrai que, étant donné que la vie, c'est-à-dire on vit plus longtemps et on travaille peut-être donc plus longtemps, même quand on est à la retraite, on peut revenir aussi pour une curiosité personnelle, venir suivre des formations qu'on n'a pas peut-être pu faire lorsqu'on était en activité pour manque de temps.
Alors on parle actuellement de l'école de la deuxième chance. Est-ce qu'il y a également une université de la deuxième chance?
Je pense que l'école et l'université, la deuxième chance, ont le même combat. On reçoit à l'université pour accéder, il faut avoir un bac. Et notre deuxième chose pourrait être considérée comme ce qu'on appelle le DAE, c'est le diplôme d'accès aux études supérieures, qui permet à quelqu'un qui a quitté le lycée depuis au moins 2 ans de venir suivre une formation par module effectivement capitalisable. Ça veut dire qu'on acquit l'un après l'autre, suivant ses disponibilités. Une fois qu'on a ce diplôme, on peut accéder à l'enseignement supérieur comme si on avait un bac. Après, il y a ceux qui ont laissés peut-être après le bac, sont partis pour une raison X, on les reçoit effectivement, et ils s'intègrent suivant donc leur niveau, ou tout simplement en faisant un dossier, on arrive à les orienter vers, je dirais, leurs préoccupations, leurs motivations, plus exactement leurs projets personnels ou professionnels.
Alors, ces personnes qui reviennent ou qui viennent à l'université après 10 ans, 20 ans, parfois plus d'activité professionnelle, est-ce qu'elles en tirent aussi psychologiquement le contact avec les jeunes, la discussion peut-être qui peut naître avec certains d'entre eux, un ressourcement, on va dire?
Je pense, on dit d'ailleurs que des enseignants, le contact avec les jeunes permet de ne pas vieillir. Donc, dommage qu'il n'y ait pas la télé, mais vous pourrez me regarder. Donc, toujours est-il que je pense que ça apporte, il est sûr qu'un jeune qui est actuellement en activité a quand même beaucoup plus de connaissances, sur, en particulier sur les nouvelles technologies, ça veut dire sur les nouvelles connaissances. On est quand même à proximité des laboratoires de recherche, des enseignants qui produisent effectivement ces connaissances. Le fait que quelqu'un qui est en entreprise, qui est assez souvent pris par son activité, entre guillemets peut-être commercial, voire même une association, son activité donc au jour le jour, n'a pas vraiment le temps de faire soit une veille, soit de s'occuper effectivement des nouveautés. Donc le fait de revenir, ça lui permet de respirer, mais aussi donc d'acquérir donc d'autres connaissances, soit par l'intermédiaire des enseignements, soit par le contact effectivement avec les jeunes qui sont dans les mêmes formations.
Alors pour certaines personnes, ça peut peut-être faire peur de se sentir dépassé par ces nouvelles technologies, voire ces nouvelles conceptions de certains métiers, de certaines formations, de certaines technologies. On peut dédramatiser quand même les choses en disant que tout est abordable à condition d'avoir envie.
Tout à fait, tout est abordable à condition d'avoir envie. Et ça n'empêche rien, effectivement, donc à essayer. Et le fait de revenir à l'université, c'est, je pense qu'il y a une aide assez importante, d'abord par les camarades quand on est dans une classe, mais aussi par les enseignants, par les techniciens. Je pense qu'il faut que les gens essayent. C'est intéressant pour sa vie personnelle. Dans certaines formations, peuvent être uniquement, je dirais, une richesse au niveau de la personne, mais c'est aussi enrichissant. Pour la partie professionnelle, on travaille aussi sur ce qu'on appelle la sécurisation effectivement donc des emplois. C'est permettre à quelqu'un de ne pas se retrouver en perte d'emploi parce qu'il y a une perte d'activité au niveau de l'entreprise ou parce qu'il y a un changement au niveau donc économique ou voire du système de production. Ça permet à tout le monde de pouvoir être, pas forcément à la page, mais au moins d'avoir les connaissances qui lui permettent effectivement d'avoir toujours un travail.
Alors, on peut peut-être aborder un sujet complémentaire, ce sont les gens qui sont en retraite et qui ont envie malgré tout de continuer à apprendre.
Ça ne pose pas de problème pour nous, c'est-à-dire on veut bien les acquérir, d'autant plus que ces personnes-là ont certainement des compétences que nous n'avons pas, donc on peut aussi, ça peut être enrichissant à nous d'en tirer profit de ce qu'ils savent déjà et à eux d'en tirer profit de ce que nous savons. Je pense que c'est un échange qui peut être très enrichissant. Et je peux vous dire que dans certaines universités, il y a des bénévoles qui sont à la retraite et qui font effectivement du travail pour, parce qu'ils étaient déjà là avant, où ils ont des compétences, ils suivent des étudiants, ils accompagnent. C'est quelque chose qui est peut-être à mettre effectivement en place, auquel on a déjà pensé.
Et certains repassent des diplômes d'un autre niveau que ceux qu'ils ont eu auparavant. C'est valorisant.
Mais bien sûr, on est là aussi pour ça. Quelqu'un qui est à la retraite, il a plus de disponibilité. Je pense qu'il peut revenir pour faire des formations à son rythme, pas forcément à celui, effectivement, du jeune donc de 20 ans qui est dans une formation. Au lieu de mettre, je ne sais pas moi, 2 ans pour avoir un master et pas en mettre 3. Mais le plaisir d'arriver au bout et d'avoir ce diplôme auquel il n'a pas pu accéder pendant donc lui-même sa jeunesse, et je pense que c'est un plaisir qui doit être très important.
Donc, Monsieur Selamouche, on va revenir aux journées, à cette journée du 24 mars, donc un forum pour les masters, donc pour présenter un petit peu ce qu'offre l'université dans ce domaine. Comment vous avez conçu l'organisation de cette journée et qu'est-ce qu'on peut y trouver?
Alors, on l'a conçu, on est un grand nombre à travailler dessus, aussi bien du côté de la formation que de la communication donc de l'île 1. Ce que nous voulons faire, c'est de présenter toutes les spécialités de master, c'est parce que c'est la spécialité qui reflète effectivement le diplôme. On les a classées par grands domaines, pas forcément ceux qui sont effectivement déclinés donc partout. Ça veut dire qu'il y aura 5 zones sur l'université, dans lesquelles il y aura une partie donc des sciences et technologies, je dirais l'informatique, l'électronique, l'automatique, mathématiques, génie civil. Et une partie il y aura de la physique et de la chimie. Une partie il y aura de la biologie. Et l'autre il y aura les sciences humaines et sociales, les sciences économiques et après la gestion et le management. Et au centre du campus, sur le bâtiment culture, il y aura ce qui est transversal. Ça veut dire qu'on parlera de l'alternance, on parlera de la formation continue, il y aura aussi des conférences sur l'insertion professionnelle, sur l'alternance et d'autres choses encore qui concernent effectivement donc les études. Ça se déroulera toute la journée et pendant cette journée, certains laboratoires, effectivement donc couverts, c'est une journée de semaine, vont recevoir des groupes des étudiants inscrits pour visiter effectivement certains laboratoires et regarder ce qui s'y fait et discuter avec les enseignants-chercheurs et chercheurs.
Voilà, donc on va dire que l'espace culture sera entièrement mobilisé puisque à la fois l'amphithéâtre et le kiosque accueilleront à la fois les personnes qui présenteront les sujets, dont vous d'ailleurs.
Tout à fait.
Et le kiosque également, donc... À chaque fois, ce seront des rencontres parfois un peu plus larges, parfois un peu plus intimes. On pourra poser des questions.
Tout à fait, c'est fait pour. D'abord, toutes les spécialités, normalement, sont structurées et font partie d'une mention. À chaque spécialité, il y aura un ensemble de spécialités, pardon, il y aura un stand et que chacun peut demander des informations sur la spécialité qu'il désire. Et autour, il y aura des informations qui sont un peu plus générales qu'on pourra fournir et qui sont là pour poser des questions, pour avoir donc des informations qui complètent celles qu'ils peuvent trouver sur le site ou celles qu'ils peuvent trouver effectivement dans les brochures.
Donc je parlais de l'espace culture, mais il y aura d'autres lieux comme le SH3, le bâtiment de sciences économiques et sociales, géographie, aménagement, sciences de l'éducation.
Tout à fait.
Il y aura également le SUPSUIO,
oui. Hein,
donc la mécanique, mathématiques, Polytech Lille présentera également
Tout à fait.
Et Télécom Lille. Le bâtiment M5, informatique, électronique, électrotechnique et automatique, le SN1, où vous retrouverez biologie, chimie, physique, sciences de la terre et environnement, le bâtiment des tests qui est à côté du A3, du bâtiment administratif, où là on parlera de sciences de gestion et de management avec l'IAE, qui est l'école qui est à Lille, centre Lille, mais qui est bien sûr une des composantes.
C'est l'Institut d'administration des entreprises et qui est une composante effectivement de Lille.
Voilà. Et ensuite, la maison des étudiants, où là, beaucoup d'étudiants qui arrivent des pays étrangers se forment plus conséquemment à la langue française pour aborder justement les rentrées qui les attendent.
Tout à fait.
Voilà, donc on a l'habitude de travailler avec la maison des étudiants et là encore dans des futurs projets qui sont passionnants. On aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, il y a quelque chose qui paraît très intéressant pour les gens qui ont un peu de curiosité, c'est la visite de laboratoire. Quand on dit laboratoire, ça fait quand même rêver et on imagine qu'il se passe dans les universités des recherches particulièrement passionnantes auxquelles le public n'a pas forcément accès, mais c'est peut-être l'occasion de découvrir l'envers du décor.
Tout à fait. Il y aura aussi par moment des démonstrations. On a même prévu, un laboratoire a prévu de faire une démonstration de petites voitures automatiques sur un petit parking, c'est FIBO. Sinon, il y aura une vidéo. Mais tous les laboratoires vont montrer des plateformes, disons donc, de recherche. Mais il y a aussi la discussion qu'on peut avoir avec les enseignants, chercheurs et chercheurs présents à ce moment-là.
Alors, c'est vrai que l'Université Lille a connu et connaît de grands chercheurs. On peut rappeler que le métro a été conçu dans l'Université Lille.
Oui, pour les gens qui connaissent M. Gabillard, qui est un électronicien de formation, il voulait faire à l'origine un ascenseur horizontal. Et c'est devenu le métro, qui s'appelle Val, mais qui à l'époque s'appelait Villeneuve-d'Ascq-Lille, et qui s'appelle toujours Val, mais pour lesquels, malheureusement, on n'a pas tiré beaucoup profit d'un point de vue économique ou financier.
Oui, mais symboliquement, ça reste le premier métro sans conducteur.
Tout à fait, ça reste le premier métro. On n'a pas tiré non plus de profit d'un point de vue de communication, parce que je pense que la population en général ne sait pas que cette invention vient de Lille 1.
Radio Campus répare cette information.
Ouais, merci beaucoup.
Il faudra qu'on insiste auprès de nos confrères des autres médias. Voilà, donc on va rappeler que La journée, c'est le 24 mars, donc Forum Master Université Lille 1. C'est à la Cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq, bien sûr. On peut trouver certainement des informations complémentaires, puisque ça se passe entre 9h et 18h, donc beaucoup de choses, sur le site de l'université www.univ-lille1.fr. Qu'est-ce qu'on peut encore annoncer par rapport, par exemple, aux trois grands domaines de ces masters? Il y a quand même 110 spécialités, c'est énorme, non? C'est pas trop?
C'est pas trop vu les compétences, effectivement, donc de l'île 1. Il y a peut-être des formations qu'on peut rassembler, mais c'est ce qu'il faut regarder, c'est l'employabilité ou l'insertion professionnelle de ces étudiants. Mmh. Ils trouvent tous donc des emplois rapidement. Le taux d'insertion est en moyenne de 94%. Et que quand on fait ces insertions professionnelles, on regarde aussi les métiers qu'ils occupent. On voit bien que d'une spécialité à une autre, il n'y a pas exactement les mêmes métiers donc occupés. Il y a peut-être certains métiers qui peuvent se ressembler, mais ce qui veut dire que les spécialités sont bien différentes et sont bien visibles de l'employeur en tant que tel. Donc, nous, on travaille en fonction, effectivement, de l'emploi des étudiants. Rassembler demain quelques spécialités pour en faire qu'une seule pourrait peut-être conduire effectivement à ce que les étudiants ne trouvent pas tout à fait le travail auquel, je dirais, ils ont droit après leur diplôme.
Donc cette diversité des formations, on peut dire que c'est la volonté d'adaptation de l'université au monde contemporain?
Oui, tout à fait, on peut dire ça. Il y a de plus en plus donc, de spécialités, on demande de plus en plus donc, d'experts, et que je pense que c'est l'université qui est la plus à même de pouvoir effectivement les former, parce que c'est à l'université qu'on produit effectivement les connaissances.
Et en plus, ça permet à des gens qui ont été formés d'une manière générale, globale, à revenir à des champs de réflexion, d'observation, des compétences plus pointues.
Tout à fait, ça permet justement, dans le cadre de cette formation tout au long de la vie, à toute personne de revenir pour acquérir d'autres compétences, avoir d'autres connaissances.
Voilà, donc pour rencontrer, découvrir, visiter et vivre un moment de l'Université Lille 1, en attendant de vous engager davantage, je vous propose donc cette rencontre le 24 mars 2011 de 9h à 18h à l'Université Lille 1 sur la Cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq. Je vous remercie beaucoup, M. Salamaouche. Très bonne soirée.
Merci à vous aussi. Au revoir.